les 150 ans de la Société des sciences, lettres et arts de Bayonne, société savante et personnalité régionale. Rencontre scientifique organisée par la Société des sciences, lettres et arts de Bayonne à l'occasion du 150e anniversaire de sa fondation, novembre 1873-novembre 2023, avec le concours de la ville de Bayonne. Les 150 ans de la SSLA à la Maison des associations de Bayonne, les 22 et 23 novembre 2023. Des figures marquantes de la cité en leur temps, voici l'intervention de Marilyn Chevrel, présidente de l'Université du Temps Libre de Bayonne, Pierre Lesseps, notaire bayonnais, maillon fort de la famille de Lesseps, Marilyn Chevrel.
Donc je vais vous parler d'une famille bien connue à Bayonne, la famille Lesseps, mais peut-être que pas mal de gens ne savent pas que c'est justement une famille bayonnaise. Alors, en préambule, je dois dire qu'en fait, on ne connaît pas avec précision l'origine de la famille de Lesseps. Le seul qui ait abordé cette question, c'est Louis Bridier, qui était le secrétaire du fils aîné de Ferdinand de Lesseps, qui a fait l'histoire de la famille de Lesseps. Et lui situe l'origine des Lesseps à la fin du XIVe siècle, quand un Lesseps est venu d'Écosse, donc au départ il serait écossais, est venu d'Écosse dans le sillage des Anglais en Aquitaine. Sa deuxième source, ensuite, c'est que en 1451, il a relevé sur un dénombrement de la ville de Bayonne. 1451, c'est la date à laquelle Bayonne est revenue à la couronne française. Donc il a relevé un Lesseps dans le dénombrement de la ville à cette époque. Et donc il situe l'arrivée en France fin 14e et l'arrivée à Bayonne au deuxième moitié du 15e siècle. Il ne cite pas ses sources, sauf Froissart pour l'arrivée en France, mais ses sources ne sont pas citées ou sont très vagues. Voilà, donc on fait l'impasse sur cette question et nous arrivons à Pierre Lesseps, notre notaire bayonnais, que j'ai qualifié de maillon fort de la famille de Lesseps, et vous allez comprendre pourquoi. Donc Pierre Lesseps est le premier de sa lignée à ne pas exercer un travail manuel, comme les hommes des trois générations qui l'ont précédé à Bayonne au XVIIe siècle. En effet, du côté paternel, vous voyez que son arrière-grand-père Étienne, on l'appelait aussi Esteban, était maître charpentier de maison. Son grand-père Jean, maître fourbisseur. Un fourbisseur, c'était en fait un armurier spécialisé dans la fabrication des armes blanches. Et vous savez qu'à Bayonne, les maîtres armuriers étaient bien connus puisqu'ils sont censés avoir inventé la baïonnette. Et tout comme son père Bertrand, qui était lui-même maître fourbisseur, avant que ce dernier ne se voie confier en 1683 les fonctions de capitaine du guet de la ville, moyennant une rémunération annuelle de 500 livres. Cette nomination lui a permis de jouer un rôle public important dans la vie quotidienne des Bayonnais, car comme les autres capitaines du guet, ils étaient trois à l'époque, il était chargé de veiller avec son escouade de garde au maintien de l'ordre, à la propreté et à la bonne tenue de la ville dans toute sa juridiction. C'est dire que les hommes du guet, bon, précurseurs en quelque sorte de notre police municipale actuelle, avaient des fonctions nombreuses et variées qui faisaient de leur capitaine un personnage public important, reconnaissable à son habit de drap rouge orné de parements de velours vert et de brandebourgs d'argent. Il avait vraiment un bel uniforme. On peut dire que la notoriété des Lesseps à Bayonne débute avec Bertrand à la fin du XVIIe siècle, qu'elle se poursuivra avec ses proches. Parmi ses proches, fils et neveux, quatre autres vont être capitaines du guet à Bayonne, donc ils auraient été cinq en tout, et sera grandement étendue la notoriété au siècle suivant par son dernier fils, vous le voyez ici en bas du tableau, Pierre Lesseps, notaire, et par ses descendants directs, dont le plus célèbre d'entre eux, Ferdinand, a été surnommé à l'apogée de sa gloire le grand français. Pierre est né le 2 janvier 1690 à Bayonne. Il est baptisé le même jour à la cathédrale Notre-Dame, toute proche. Ses parrains et marraines sont ses aînés, son frère Bertrand, vous le voyez, le troisième de la fratrie, 11 ans, et sa sœur Marie, l'aînée, 14 ans. Il est élevé par la seconde épouse de son père, car sa mère est décédée quelques mois après sa naissance. À l'issue de sa formation élémentaire, il est placé dans l'étude notariale de Dominique Dugalard, où il appose pour la première fois sa signature au bas d'un acte daté du 22 juin 1703. Il a 13 ans et demi et débute ainsi une longue et brillante carrière favorisée par son maître qui a décelé chez son apprenti notaire des qualités personnelles appréciables. En effet, sa grande capacité de travail, son affabilité et sa droiture inspirent la confiance de tous, des clients de l'étude, bien sûr, des notables bayonnais et des magistrats municipaux. Si bien que Dugalard, qui a la charge de greffier de l'hôtel de ville, le fera nommer commis greffier à ses côtés en 1717. Je vous ai donné ici, alors c'est un dessin récent, mais il a le mérite de nous montrer l'hôtel de ville, le voilà, avec son beffroi, c'est cette maison-là, voilà, qui était située sur l'actuelle place Notre-Dame, derrière le chevet de la cathédrale, où est aujourd'hui l'ancien tribunal. Voilà, c'était la place de l'hôtel de ville à l'époque. C'est le début pour Pierre Lesseps, c'est le début d'un long engagement auprès de la municipalité bayonnaise qui va durer près de 50 ans. Pierre Lesseps, en parallèle de son notariat, assume une lourde charge en remplissant successivement les fonctions de greffier secrétaire, de secrétaire en chef, de trésorier de la ville et de secrétaire de la chambre de commerce. Et quand, en 1757, il est question de supprimer cette chambre de commerce, il sollicite aussitôt, en compensation, la place de receveur des octrois de la ville. Pierre Lesseps est donc au cœur même des affaires de la ville. Les édiles décident, lui rédige et enregistre les actes comme greffier trésorier. Il tient les cordons de la bourse, municipale comme trésorier. J'ai dit greffier secrétaire, je me suis peut-être trompée, et donc comme trésorier. Rien ne se fait sans lui. C'est véritablement un homme de grande influence qui aime les honneurs et le pouvoir manifestement. Parmi ses clients figure Marie-Anne de Neubourg, reine douairière d'Espagne, veuve de Charles II, le dernier des Habsbourg, décédé sans héritier. Exilée à Bayonne en 1706, elle y séjournera pendant plus de 30 ans et malgré son état de gêne financière, dû au fait que sa rente ne lui est que très partiellement versée par la couronne espagnole, elle entretient à crédit une petite cour dans sa résidence du Palais Monteau, située près de la cathédrale. La reine choisit Pierre Lesseps comme secrétaire de ses commandements et dépositaire de son testament. Après le retour en Espagne et le décès de la reine, il participe en 1738 et 1739 en tant que notaire et secrétaire de la ville au recouvrement des sommes importantes dues par Marie-Anne de Neubourg à ses créanciers bayonnais. En tout, en cumulant toutes les dettes qu'elle avait faites, il y en avait pour environ 1 million de livres. Cette tâche difficile et de longue haleine ne connaîtra un heureux dénouement que 30 ans plus tard, grâce à l'intervention de Martin de Lesseps, le 5e fils de Pierre, au cours d'une mission diplomatique qui le conduit en 1762 à Madrid et à Lisbonne. Dans la vie personnelle de Pierre Lesseps, l'année 1715 est très importante. Le 2 janvier de cette année-là, il compte 25 ans, qui est l'âge de la majorité à l'époque. Il peut s'établir comme notaire et il a le statut de bourgeois de la ville de Bayonne. Le 27 janvier, il s'unit à Catherine Fourcade, fille de Jean Fourcade, bourgeois et marchand bayonnais, une famille très influente à Bayonne, et de Marie du Galard. L'épouse est âgée de 24 ans, elle est la nièce de du Galard, le notaire qui a favorisé son ascension et dont il va prendre la succession à l'étude. Le 27 juin, Pierre, son frère Jean, maître apothicaire, et sa sœur Plaisance, mariée à un marchand gantier, tous les trois étant dorénavant majeurs, signent une transaction avec leur oncle Pierre Lesseps. Celui-ci est capitaine du guet de la ville, en survivance de son frère Bertrand, et il avait été nommé curateur des enfants mineurs au décès de leur père. Mais faute d'avoir rendu dans les temps les comptes de sa curatelle, Pierre n'a pas hésité à l'assigner au sénéchal, c'est-à-dire au tribunal, dès qu'il a été majeur, afin qu'il s'exécute, qu'il rende ses comptes et qu'on puisse lui délivrer quitus par le biais de cette transaction. On dirait, et qu'ayant atteint la majorité, Pierre Lesseps entend exercer personnellement et librement tous ses droits pour prendre sa place, toute sa place, pour apurer le passé familial et bâtir l'avenir de sa propre famille. Cette démarche se confirme l'année suivante, quand, en septembre 1716, il enjoint son frère et sa sœur de procéder au partage de l'héritage paternel, en respectant à la lettre les termes du testament de Bertrand, leur père. Celui-ci, dans ses dernières volontés, avait largement avantagé Pierre, son dernier fils. Par un prélègue de 1800 livres, ce qui était une somme confortable à l'époque, assez importante, c'est-à-dire que cette somme était soustraite de la masse des biens avant de faire le partage entre les héritiers. C'était véritablement un avantage. De plus, dans son testament, Bertrand avait accordé à sa veuve l'usufruit de tous ses biens immeubles pendant 5 ans. Donc, nous sommes après ce délai quinquennal. Le partage est effectué entre les 3 héritiers avec toute la rigueur notariale. Il attribue à Pierre, avec d'autres biens, la maison familiale qu'il a vu naître et grandir, qui existe toujours à Bayonne, rue de l'Évêché. Vous avez à gauche un dessin plus ancien et à droite la photo actuelle. C'est là qu'il s'est naturellement installé avec son épouse Catherine Fourcade pour fonder sa propre famille. En 1718, le couple a déjà 3 enfants et souhaite occuper la totalité de l'immeuble. Aussi, Pierre décide d'en exclure dans les formes et, avec les compensations qu'il juge nécessaires et suffisantes, Marie Dumont, sa belle-mère, qu'il a élevée, et qui pourtant, selon les dernières volontés de son défunt mari, avait le droit d'y habiter sa vie durant. Ces actes notariés que je viens de vous d'évoquer devant vous, figurant au rang des minutes de du Galard, nous éclairent sur le caractère de Pierre de Lesseps, dont voici le portrait. On peut y discerner un homme fier, déterminé, pointilleux, déjà bien aguerri à la pratique notariale et très soucieux de ses intérêts personnels. Il possède également l'esprit de famille. Ça, c'est un trait commun à tous les Lesseps de toutes les générations qui se sont soutenus et entraidés chaque fois que nécessaire, même entre parents éloignés géographiquement. Chez eux, les exemples d'assistance familiale sont nombreux, des prêts d'argent à titre gracieux ou à titre onéreux, la prise en charge et l'éducation des enfants d'un frère ou d'un cousin veuf installé loin de Bayonne, moyennant dédommagement. Il y a toujours eu dédommagement pour l'éducation des enfants parce que ça s'est allé sur plusieurs années. Quant à lui, Pierre prête son appui à ses proches pour l'obtention de marchés relatifs aux travaux donnés à bail et rémunérés par la ville, ce qui leur procure bien sûr un supplément de revenus. Mais il ne les dédaigne pas non plus pour lui-même. Ainsi, nos archives nous donnent le bail d'enlèvement des boues et fumiers qui lui a été délivré en 1729. La liste en est longue. On voit que pendant plusieurs décennies, les Lesseps ont fourni les corps de garde en pain, en vin, en bois, en charbon, en chandelles. ils ont fourni le pain béni et le linge à l'hôpital militaire de Saint-Esprit. Par ailleurs, la correspondance que Pierre Lesseps a entretenue pendant 20 ans avec son ami Léon Dulivier, qui était député bayonnais et qui représentait à Paris la ville de Bayonne et la Chambre de commerce, aurait permis de compléter son portrait. Mais malheureusement, ses archives ont disparu dans l'incendie de l'hôtel de ville en 1891. Mais selon Pierre Uturbine, un ancien président de la SSLA au début du XXe siècle, qui lui a eu accès à ses archives avant qu'elles ne brûlent, donc selon lui, les deux amis, en plus des nouvelles familiales, échangeaient entre eux sur l'administration communale, sur les affaires en cours et sur des faits divers locaux que Pierre Lesseps racontait à son ami Dulivier. L'intérêt, nous dit Iturbide, l'intérêt de Pierre Lesseps pour la gestion de sa ville était grand et sincère. Son style plein de verve et pétillant d'esprit. Son union avec Catherine Fourcade s'avère très féconde, puisque le couple donne la vie à 14 enfants, 6 filles et 8 garçons, dont 3 vont assurer la renommée de la famille Lesseps en France et dans le monde. Pierre Lesseps a inculqué à ses enfants les qualités qu'il cultivait pour lui-même, l'amour du travail, le dévouement, la droiture, la probité et l'ambition. Ainsi a-t-il fait de ses fils des hommes de valeur qui, grâce à de solides études et d'excellentes relations, ont connu une remarquable destinée. S'il a souffert de les voir quitter Bayonne, comme il l'a confié à son ami Dulivier, Pierre est cependant très fier de leur réussite et il voue une très grande reconnaissance à son fils aîné, Dominique, qui, s'étant élevé le premier dans la voie diplomatique, a veillé sur ses jeunes frères et les a associés à sa propre réussite. 4 filles que vous voyez sur le tableau sont vivantes à son décès. Catherine, épouse de Jean-Baptiste Delanne, un maître orfèvre et officier de la Monnaie. C'est lui d'ailleurs qui a laissé la caution quand Pierre Lesseps s'est installé comme notaire, il fallait laisser une caution financière. Gracieuse, célibataire et hospitalière à l'hôpital militaire de Saint-Esprit. Jeanne, mariée à Alexandre Dubroc, capitaine de navire. Étiennette, la dernière, qu'on appelait Basquine, la dernière née, qui est unie à Pierre Simonin, professeur d'hydrographie à Bayonne, puisqu'il y avait une école d'hydrographie à Bayonne. Mais ce sont ses fils, je l'ai dit, qui vont assurer une brillante descendance familiale. Dominique, l'aîné, a joué un rôle essentiel dans l'histoire de la famille. Pierre aurait bien voulu qu'il lui succède à Bayonne dans sa charge de greffier de la ville. Mais Dominique préfère poursuivre la carrière diplomatique qui lui convient à merveille. Carrière diplomatique, d'ailleurs, qu'il a initiée à Bayonne, quand en 1733, un conseiller du roi est arrivé à Bayonne, Barbery de Saint-Contest, pour effectuer le tracé de la frontière entre la France et l'Espagne. Il s'est présenté à la mairie de Bayonne, il a été reçu par Pierre Lesseps et par son fils. 18 ans, Dominique avait à l'époque, et il a été séduit par ce jeune homme qu'il a vu intelligent, bien élevé, parlant couramment espagnol, ce qui était très important pour lui, et il l'a aussitôt embauché comme secrétaire. Ce qui fait que Dominique Lesseps l'a suivi dans les conférences qui ont eu lieu sur la frontière, à Hendaye, à Fontarabie, et puis de l'autre côté à Saint-Jean-Pied-de-Port et à Roncevaux. Il parlait tellement bien espagnol et il écrivait tellement bien que c'est lui qui a traduit en espagnol l'accord final signé à Saint-Jean-Pied-de-Port. Et donc, qu'a fait Barbery de Saint-Contest quand il est parti, il l'a amené dans ses bagages. Et c'est comme ça que Dominique est rentré donc dans la vie diplomatique, le monde diplomatique. Avec lui, le patronyme Lesseps entre donc dans la diplomatie française et devient de Lesseps. Il terminera sa carrière comme ministre chargé d'affaires aux Pays-Bas avant de se retirer à Montauban. Il est anobli par Louis XVI en 1777, mais le titre s'est éteint faute de descendance mâle. Pierre Lesseps, le second fils, le puiné et le canard boiteux de la famille. Parce qu'il n'a rien fait pour la renommée des Lesseps, et au contraire, il quitte Bayonne à 18 ans contre la volonté de son père, en y laissant des dettes. Il passe 14 ans comme employé aux écritures chez un parent de sa mère à Cadix, qui est armateur, et il devient Pedro. Il épouse une Espagnole en 1744 qui va lui donner une fille, Catalina. Puis, abandonnant femme et enfant, il embarque pour le Mexique avec lequel il était en affaire. Il embarque pour le Mexique et se fixe à Veracruz. On trouve ensuite sa trace à Cuba, puis en Argentine, où il décède en 1753 et il ne sera jamais revenu à Bayonne. Jean Barthélemy, le troisième fils, lui va poursuivre la lignée bayonnaise. Il succède à son père à l'étude notariale et dans toutes ses fonctions à la ville et à la chambre de commerce. Et si l'on additionne la durée de leurs charges respectives, on voit que Pierre et son fils Jean Barthélemy ont servi leur ville pendant plus de 75 ans, sans interruption. Michel, le quatrième fils, entre aussi dans la carrière diplomatique à 21 ans. Grâce à Dominique, il obtient un poste aux affaires étrangères à Versailles et ne quitte la cour que pour remplir quelques missions à l'étranger. Martin, le cinquième fils, douzième enfant de la fratrie, suit de près son frère Michel. En 1756, il est nommé consul de France à Carthagène, où il épouse, en Espagne, où il épouse Anna de Kaisergue. Puis il sera consul général à Hambourg et enfin, à l'apogée de sa carrière, consul général à Saint-Pétersbourg. Il est le père de quatre enfants, dont trois garçons, tous pourvus d'un don exceptionnel pour les langues. L'aîné de ses enfants, je suis obligé de vous en dire un mot, vous allez comprendre pourquoi. L'aîné de ses enfants, Jean-Baptiste Barthélemy, est le seul rescapé de l'expédition de la Pérouse. Qu'il a quitté, il avait été embauché par l'adjoint de la Pérouse parce qu'il parlait couramment quatre langues vivantes et donc il l'avait embauché comme interprète. Et la Pérouse lui a demandé de quitter l'expédition quand il est arrivé à la péninsule du Kachapka parce qu'ensuite il allait redescendre et donc il a chargé le jeune Lesseps de rentrer en France avec une caisse qui contenait tous les résultats, les cartes, les carnets de la première partie de l'expédition. Ce jeune homme que vous voyez devant vous a mis quand même 13 mois pour rejoindre Versailles, c'est-à-dire qu'il a traversé toute la Sibérie, il a parcouru 4000 lieues, c'est-à-dire quasiment 20 000 kilomètres, et je remercie Madeleine Dupuy qui est présente dans la salle parce que c'est grâce à elle que j'ai pu lire l'histoire, il l'a lui-même écrite, l'histoire de cette aventure extraordinaire. Le second fils, Mathieu, a occupé divers postes diplomatiques sur trois continents. Lui aussi parlait quatre langues vivantes. En plus de ses frères, lui, il avait appris l'arabe. En 1801, il a épousé à Malaga Catherine Grévigné, la fille d'un riche négociant d'origine belge, et d'une Espagnole, Antonia de Gallegos, qui était la grand-tante d'Eugénie de Montijo, future impératrice des Français. Le couple a quatre enfants, dont trois garçons, Théodore, Ferdinand et Jules. Nous voilà arrivés à Ferdinand. Ferdinand, qui est né à Versailles en 1805, était donc le fils de Mathieu, le petit-fils de Martin et l'arrière-petit-fils de Pierre Lesseps, notre notaire. On peut dire que Pierre Lesseps était fier de sa longue carrière au service de sa ville et des Bayonnais, car dans son testament, dicté à son collègue d'Iriard la veille de sa mort, le 17 août 1759, voilà Ferdinand, photographié par Nadar, et donc la veille de sa mort, voilà deux extraits de son testament, il fait rajouter à d'Iriard, c'est la partie de gauche, quelques lignes de sa main pour compléter ses dernières fonctions. Il est donc notaire et conseiller du roi, greffier en chef de la ville et de la chambre de commerce et exerçant les fonctions de trésorier de la présente ville. Voilà ce qui lui fait rajouter dans la marge et qu'il a signé de sa propre main. Vous voyez que sa signature est un petit peu tremblotante. Mais sa fierté, qui est vraiment un aspect majeur de sa personnalité, pouvait prendre des allures d'orgueil à l'examen de sa signature. Nous avons vu son premier paraphe à l'âge de 13 ans et demi, quand il signe son premier acte. Le paraphe est appliqué et bien formé. Nous avons vu là sur son testament sa dernière signature, mais entre ces deux extrêmes, sa signature a pu prendre des allures et des dimensions extravagantes. Que dire, pour conclure, que dire de la fortune de Pierre Lesseps ? Son testament ne manifeste que sa volonté de laisser une somme d'argent à chacun de ses 9 enfants vivants à la fin de sa vie, puisque la légataire principale de ses biens est son épouse Catherine Fourcade, qui décède l'année suivante. On sait que Pierre Lesseps avait acquis plusieurs biens immobiliers à Bayonne, situés dans le quartier de Saint-Léon, et dans la ville même, il avait acquis une loge qu'on appelait un chai, qui était adossée à la cathédrale, vous en voyez ici des exemples, pour lequel il payait un fief de 3 livres par an à la ville. Louis Bridier résume ainsi la question. Malgré les services qu'il rendit à son pays et l'importance des charges qu'il occupait en dehors de son notariat, Pierre Lesseps n'était pas riche. Je peux dire en conclusion et en vous montrant... Ah, je ne l'ai pas. J'avais le blason... Eh bien, excusez-moi. J'avais le blason de la famille des Lesseps. Je n'ai pas la bonne version sur... Donc, je reviens là. On peut dire donc en conclusion que la famille bayonnaise Lesseps représente sous l'ancien régime un modèle d'ascension sociale fondé sur l'exercice des fonctions municipales, de capitaine du guet à secrétaire trésorier de la ville, pour ne citer que les plus connus, fondé également sur des études solides et le savoir indispensable à l'obtention de ces charges et à leur cumul qui ont favorisé leur réussite et consolidé leur pouvoir. Je vous remercie.
Pierre Lesseps, notaire bayonnais, maillon fort de la famille de Lesseps. Vous venez d'entendre l'intervention de Marilyn Chevrel, présidente de l'Université du Temps Libre de Bayonne. Voici une seconde intervention, toujours sur des figures marquantes de la cité en leur temps. Voici l'intervention de Pedro Sanchez Blanco, ancien professeur d'histoire. Il nous parle de Simón d'Aragorri Olabide, un andaillé des Lumières, Pedro Sanchez Blanco.
Effectivement, Simón d'Aragorri n'est pas très connu en France. En Espagne, il est plus connu et on traite de lui dans plusieurs travaux d'histoire économique. Il est né en 1725 à Andalle, il est mort en 1801 à Madrid. Et vous voyez ce qu'il dit de lui avec Durier et avec François Cabarrús et Michel Silverberg. C'est-à-dire, il pense que ces trois personnages méritent une attention spéciale vu le rôle qu'ils ont joué à leur époque. Et d'autre part, Alexander von Humboldt nous parle, enfin, parlait à ses précepteurs de la tête bien faite de Simón d'Aragorri. Simón d'Aragorri appartient à une famille d'armateurs et de négociants où il y a aussi quelques officiers de marine qui vont travailler des deux côtés de la Bidasoa et au-delà, des deux côtés des Pyrénées, des deux côtés de la Bidasoa et au-delà. Vous voyez dans le premier texte les pères et l'oncle de Simón d'Aragorri. Et dans le deuxième texte, vous voyez un autre Simón d'Aragorri, qui a provoqué quelques quiproquos entre les historiens de côté espagnol, mais c'est un oncle, avec le même nom, il y a plusieurs Simon d'Aragorri dans la famille, qui est officier de marine et qui mène aussi des négoces des deux côtés de la Vie d'Ochoa, parce qu'on les trouve un peu d'autant à Cibourg, dans les affaires de Cibourg, qu'à Passage. À Passage. C'est une l'origine de la famille est discutée, on parle de l'origine espagnole. Le fait qu'on peut constater, c'est que l'actuel domaine d'Abadia, le château observatoire d'Abadia, s'appelait, et certains continuent encore à l'appeler, d'Aragorri, hein, les domaines, les terres d'Aragorri. Dans une carte de 1609, figure là Aragorri. Et ce qui est plus important, au début du XVIIIe siècle, dans cette carte, figure aussi le port Aragorri, un port bien situé parce qu'il est hors vue de Fontarabie, l'éternel rival de Hendaye ou du Labour en général. Et l'oncle et le père de Simon d'Aragorri vont aller habiter à Saint-Sébastien, et les jeunes Simon d'Aragorri et son frère Martin, qui vont être inséparables, vont apprendre l'office, la profession, et ils vont partir de suite à Madrid avec un petit arrêt à Santander, où ils vont domicilier justement sa société, Aragorri et Ferrer. D'abord négociant dans toutes sortes de produits, les denrées alimentaires, la laine, les produits coloniaux, les produits de luxe. Et petit à petit à Madrid, Simon d'Aragorri va se convertir en fournisseur du roi pour la marine, avec ce qui est nécessaire à la marine, le fer, les bois, les matures et même les vivres pour les soldats. Sa capacité dans les affaires va faire de Simon d'Aragorri, parce que c'est lui qui représente bien la société, le plus puissant des commerçants de ce qu'on appelle à Madrid, de ce qui existait à l'époque, los cinco gremios mayores, c'est-à-dire les cinq corporations, hein, qui étaient justement des luxe, les joailliers, les soyeurs, les drapiers, les droguistes, il faut penser surtout au parfum et autres produits de luxe. Et ces négoces dans toutes ces sortes de produits va permettre une grande fortune, une énorme fortune, qui va faire de la société une société aussi financière, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir investir, prêter, émettre des lettres d'échange qui vont être reconnues dans toute l'Europe. Et vous voyez dans ce texte comment d'Aragorri est un créditeur du temps de la guerre des successions en Autriche, justement à propos de l'armée et de la flotte au Canada. Son bureau de négoce était placé à Madrid, ce qui est aujourd'hui la Gran Vía, dans ses carrefours, si on peut appeler, qu'on appelle la rue de San Luis, c'est-à-dire un lieu très beau à l'époque, sûrement, très fréquenté, c'était un point de rencontre, et à ce qu'il paraît, son bureau était décoré avec un goût exquis et dans le style français. Il prêtait de l'argent à l'ambassadeur de France en Espagne, le marquis de Boisson, au grand noble, même français et espagnol, par exemple le comte de Fernand Núñez. Il était co-responsable de la compagnie la compagnie française de Sende à Madrid, et responsable aussi de la caisse d'escompte. Donc, vous voyez que les activités sont de plus en plus nombreuses, la fortune grandit énormément, et il va être avec sa femme un des seconds grands propriétaires d'un cheptel de Mérinos composé de presque 40 000 individus. Mais il ne va pas s'arrêter au négoce. Hein. C'est-à-dire, il va se convertir dans un homme des Lumières. Pas seulement parce qu'il a une pensée économique, qu'on va voir de tout de suite, on va voir d'autres activités. Le grand moment pour la Rotary et pour tous ceux qui voulaient changer le monde à propos des Lumières, c'est-à-dire en utilisant la lumière de la raison pour découvrir les failles de la société et tout corriger pour faire un monde nouveau où l'homme s'émanciperait, serait plus libre, la société plus juste, vont profiter de l'arrivée au trône espagnol de Charles III, le meilleur roi que la France et l'Espagne aient eu, et qui venait de Naples, où justement il avait commencé les fouilles à Pompéi. Donc Charles III, c'est le focus pour tous ceux qui veulent changer le monde. Entre autres, Simon de la Rovere. Simon de la Rovere, qui était tout à fait au courant des courants européens, il lisait les journaux du commerce, il a connu et beaucoup pensé sur les rapports qu'Acarias de Cirone a effectués sur l'Espagne. Il connaissait les théories économiques de Hume et la physiocratie, les physiocrates. Et donc, il va élaborer en 1761 ses réflexions sur l'état actuel du commerce en Espagne, où il fait des propositions clairement du libre-échange, avec le point principal, passer du protectionnisme au libre-échange, promouvoir l'agriculture, on voit l'influence de la physiocratie, et assainir la monnaie et les finances publiques. Et il va collaborer avec la grande figure des réformes en Espagne, qui est Pedro Rodríguez de Campomanes, qui est un grand serviteur de l'État, et ils vont réussir, à partir de 1665 jusqu'à 1768, à promulguer les règlements qui vont installer la liberté de commerce en Espagne, à partant de la liberté de commerce transatlantique, c'est-à-dire avec l'Empire. Mais il ne s'arrête pas à la théorie. Il est un homme très pratique, c'est un innovateur, intéressé par le bien public. Et par exemple, tous les marécages autour de Saint-Sébastien, il va entreprendre son assèchement pour le mettre en culture. Nous voyons ici aujourd'hui à Estigarraga, à quelques kilomètres de Saint-Sébastien, ce qui est aujourd'hui, c'est marécages asséchés, converti en zone artisanale, en zone résidentielle. C'est-à-dire que finalement, il va assécher tous les marécages autour de Saint-Sébastien, ce qui est important. En Biscaye, il va créer une société, une entreprise, pour la salle de son et le fumage du poisson. En Daille, il va se faire avec le contrôle du domaine d'Irandat, Irandat, qu'on dit aujourd'hui, Irandas, qu'on disait à l'époque, ou tout simplement Iranda. Vous voyez, là, c'était la grande île d'Andaye, aujourd'hui unie au continent. Son domaine allait du centre-ville d'Andaye, un peu en dehors du centre-ville d'Andaye, jusqu'à la ville d'Assoa. Et on peut voir là, on le voit mieux là-bas, oui, c'est trop petit, mais pour voir la baie de Chimoudi, et la plage, pour se faire une idée de l'extension, de l'étendue de son domaine. À Saint-Domingue, sous la direction d'un cousin, il va installer la culture du sucre, évidemment avec les mains d'œuvre esclaves, mais qui au moment de la révolte des Noirs d'Haïti, en 1793-1794, cette révolte vraiment n'a pas eu lieu dans le domaine qu'il a installé à Boca de Nigua. Il y a eu des problèmes, mais à la base, c'était plutôt un problème de relation entre les propres Noirs. Hein. À Saint-Sébastien, il va penser à, imaginez-vous, installer un port dans la baie, préparer la baie, la Concha, pour faire un port de commerce qui, évidemment, s'ajouterait au port de passage sous contrôle de Saint-Sébastien. Et à Rentería, il a installé une fanderie, c'est-à-dire une aciérie complètement nouvelle avec des personnels allemands, des travailleurs allemands, 40 ouvriers allemands, pour fendre l'acier, c'est-à-dire pour l'étirer, pour faire ce qu'on appelle de l'autre côté las laminaciones. Voilà une partie de cette fanderie qui est arrivée jusqu'à aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est de dire que c'est complètement nouveau, cet étirage du fer. Et en plus, il va essayer la verticalité de la production industrielle parce qu'il va acquérir une fabrique d'encre. Donc vous voyez, c'est un innovateur avec un peu de visionnaire. Et il va se mettre au travail pour les réformes d'Espagne. Tout d'abord, il va être le directeur du dépôt des grains. Vous voyez ici la Puerta de Alcalá, une partie du parc du Retiro, et el pósito de grano, le dépôt des grains, était là, dans ce triangle. Il va être le grand fournisseur du blé et des grains pour l'Espagne, mais il ne va pas s'arrêter là. Il va aider à la réforme de la compagnie d'Inde, du Conseil d'Inde en Espagne. Il va réformer pour la compagnie de l'Havana pour que ça aille, termine dans la compagnie des Philippines. Avec Cabarrús, il va participer à la création de la Banque de Saint-Charles, le président de la Banque centrale d'Espagne. Il va faire partie, comme ministre honoraire du Conseil du Trésor espagnol, représenté ici dans une belle, un beau relief, avec d'autres, irait pour la décoration du nouveau palais royal, et qu'aujourd'hui se trouve dans le musée du Prado. Et il va canaliser l'aide espagnole à côté de l'aide française aux indépendantistes américains, enfin anglais, des colonies des Amériques. Donc vous voyez, il est partout. Et il va être remercié par le roi en 1769, c'est-à-dire avant les événements dans les colonies anglaises, avec le titre de marquis, et marquis d'Iranda, c'est-à-dire de son domaine d'Andaï. Et tout n'est pas négoce chez lui. Il est très acquis aux nouvelles idées qui se développent en Espagne dans las tertulias, ces réunions d'amis pour parler de l'actualité, pour se tenir à jour, pour proposer des alternatives. Soit chez lui, avec sa femme, il avait sa résidence à la Plaza Mayor, juste en face de la maison des conseils. Et cette belle illustration, c'est justement la représentation de la décoration qu'on a fait de la Place Mayor de Madrid lors de l'arrivée de Charles III. Les grandes figures de l'Espagne qui veut la réforme dans tous les secteurs de la société vont être ses amis et vont participer aux tertulias. C'est le cas du général Ricardos qui va s'illustrer et va se frustrer lors de la guerre des Roussillons. C'est le cas de Campomanes, le grand commis de l'État, très ami, avec qui il entretient une correspondance qui n'est pas au jour d'aujourd'hui est sous la tête, avec le cardinal Lorenzana, archevêque de Tolède, et avec la famille de Iriarte, qui sont des diplomates, et surtout Thomas d'Iriarte, le grand fabuliste. Et la tertulia, il peut participer aux tertulias qui font les autres. Et quand il est au Guipuscoa, il participe aux tertulias qu'il y a en Guipuscoa. Par exemple, les tertulias de la famille Soisnavar à Hernani. Et surtout, surtout, il va être membre de la société, de la Royal Société d'Amis du Pays Basque, dont on a traité hier. Et vous voyez qui est une société qui avait une responsabilité à Madrid. Donc c'est un homme pleinement impliqué dans le renouvellement du monde à travers des lumières. Mais les années troubles arrivent, c'est-à-dire la révolution. Tout d'abord, un nouveau roi, Charles IV, un homme très faible. Un homme faible, irrésolu, qui appelle comme secrétaire d'État principal le comte de Florida Blanca, pas très ami de Simon d'Aragorri, qui préférait le marquis d'Aranda, qui venait de rentrer de son ambassade à Paris. Et donc, dans ces désordres de l'époque, il y a un personnage qui émerge, un arriviste, un militaire, Godoy. Un personnage assez controversé, quoique aujourd'hui on corrige un peu le tir. Simon d'Aragorri va être dans ces maelstroms de la Révolution. Tout d'abord, la guerre qu'on connaît en France comme la guerre du Roussillon, en Espagne on la connaît plutôt comme la guerre de la Convention. La guerre de la Convention qui va occuper la Catalogne, qui va occuper les Pays Basques, et le Guipuscoa qui va s'incorporer à la République française. Donc, ça, c'est un problème dans lequel Simon d'Aragorri va être accusé d'être derrière les têtes visibles. Problème. En 1795, il va être manipulé par Godoy pour lui donner une mission, c'est chercher la paix. Chercher la paix. Donc, Simon d'Aragorri se déplace au Guipuscoa. Il va s'entretenir avec Servant, avec Moncé, mais ça ne valait absolument rien, parce que les vraies négociations de la paix avaient lieu à Bâle, justement, par Domingo de Iriarte. Donc il a été clairement manipulé. Finalement, la paix va arriver en 1795, et on la célèbre avec ce tableau où l'on voit Godoy montrant la paix à Charles IV. Les dernières années, à partir de 1786, Simon d'Aragorri doit se défendre des accusations à propos de cette union de Guipuscoa à la République française. Et non seulement il va très bien se défendre, mais il va réussir que le roi pardonne aux têtes visibles de l'union de Guipuscoa à la France, c'est-à-dire de la sécession du royaume. Malgré ses divergences avec Cabarrús, il va coopérer aux réformes en Espagne et, comme la firme Aragorri est très fiable, donne confiance, il va même agir comme intermédiaire dans un problème qu'il y avait le gouvernement français qui avait besoin d'argent et qu'il voulait le trouver dans les prises qui avaient été faites aux Anglais et qui étaient à Cadix, mais la liquidation de ces prises tardait beaucoup et c'est lui qui agit pour que le gouvernement français récupère, se fasse avec cet argent. En même temps, vous voyez dans les journaux des hommes libres, il va être accusé en France d'être dans un complot pour instaurer la monarchie en France dans la personne d'un enfant espagnol. C'était faux. C'était faux. Ni Italien, ni Cabarrus, ni Simon de la Rorri avaient organisé aucun complot. Le problème, c'était qu'il fallait envenimer un peu le rapport avec l'Espagne, la relation avec l'Espagne, et voilà. Mais c'est surtout le grand moment de gloire pour Simon de la Rorri, c'est l'arrivée de Humboldt. Humboldt, Alexandre, qui avait organisé sa grande expédition en Amérique latine, et il va passer en Espagne, et il va trouver l'appui inconditionnel et toutes les facilités de Simon de la Rorri pour financer et entreprendre cette expédition de l'explorateur Humboldt, qui finalement va créer les bases des missions exploratrices et scientifiques. Humboldt, qui parle de Simon de la Rorri comme d'un père, d'une tête bien remplie, bien ordonnée, et surtout, qui va dire que c'est quelqu'un de confiance, de fiable, qui en plus a beaucoup de relations qui sont très importantes. La preuve, c'est que le nom Aragorri va passer dans des figures célèbres en France et en Espagne. Voilà le portrait d'Aragorri, qui aujourd'hui est l'original et en couleur très beau, et au château d'Arcangue. Mais le général Castaños, la première grande défaite de Napoléon à Bailén, le général Castaños était Castaños, d'Urioste et Aragorri, c'était un neveu. Voici le duc de Ahumada, qui non seulement porte aussi un peu plus loin le nom d'Aragorri, mais surtout que c'est un descendant aussi de le dernier empereur azteca de Mexico, Moctezuma. Et finalement, Arcangue, parce que si autant Simon que Martin n'ont pas eu d'enfants, ses sœurs, à travers ces mariages, se sont apparentées avec les Castaños, avec les Girón et surtout avec l'Arcangue, les seigneurs d'Arcangue, qui sont les récepteurs du titre de marquis d'Iranda actuellement aujourd'hui. Donc, après ce parcours, je termine, vous voyez que Simon de la Rorri n'est pas seulement un homme d'économie, évidemment versé dans les nouvelles idées, c'est un homme pleinement intégré dans le monde des Lumières. Et un exemple un peu de transfrontalier, hein, puisqu'il agit de tous les côtés. Merci beaucoup.
Simon de la Rorri Olavide, un andaillé des Lumières. Vous venez d'entendre l'intervention de Pedro Sanchez Blanco, ancien professeur d'histoire, membre de la Société des sciences, lettres et arts de Bayonne. Les 150 ans de la Société des sciences, lettres et arts de Bayonne, société savante et personnalité régionale. Rencontre scientifique organisée par la Société des sciences, lettres et arts de Bayonne à l'occasion du 150e anniversaire de sa fondation, novembre 1873, novembre 2023, avec le concours de la ville de Bayonne. Les 150 ans de la SSLA à la Maison des associations de Bayonne, les 22 et 23 novembre 2023. Retrouvez toutes les interventions sur le site internet de Radio Lapourdi, www.lapourdi.net.